Bonsoir chers amis, donc nous continuons notre cycle de master consacré à Saint Grégoire Palamas et nous en sommes maintenant à notre troisième séance. À la première séance, nous avons vu rapidement la vie du saint, nous avons aussi présenté la bibliographie, nous avons vu aussi les problèmes que pouvait poser la réception de Palamas. Et en particulier, nous sommes restés sur la question des énergies divines, dans la mesure où ça avait été considéré comme une invention de Palamas dans le dictionnaire de théologie catholique. Dans la deuxième séance, donc, nous avons montré à quel point cette notion, cette théologie des énergies divines est présente chez les pères, et nous l'avons suivie en nous basant sur le livre de Jean-Claude Larcher qui s'appelle « Théologie des énergies divines » et qui est maintenant traduit en roumain. Donc, et je vous conseille vivement de le lire parce que la question des énergies divines est vraiment une question très importante pour l'orthodoxie. Effectivement, pour dire en quelques mots, elle traite, si vous voulez, de la manifestation de Dieu dans le monde, dans la création, dans l'homme. C'est d'ailleurs tout ce qui se manifeste à partir de Dieu et tout ce que l'homme peut connaître de Dieu. Et on a vu aussi que cette théologie des énergies divines, qui est présente chez les pères depuis très longtemps, s'opposait, était en opposition avec la théologie officielle de l'Église catholique, et en particulier la théologie scolastique, qui voit dans Dieu essentiellement une essence close, actus purus, donc sous l'influence de la philosophie d'Aristote, et tout ce qui est extérieur à l'essence est créé, et donc il n'y a pas de communication de Dieu à l'extérieur de son essence, autrement que par des créations. Ça va très loin, si vous voulez, ça veut dire que la grâce est créée, ça veut dire que toutes les manifestations de Dieu que l'on a dans la Bible ne sont pas, en fait, des manifestations de Dieu directement, mais sont des manifestations d'intermédiaires créés, d'anges, etc. Mais ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc, ça aboutit, finalement, et c'est assez grave, à une rupture, c'est-à-dire à une coupure entre Dieu et, d'une part et le monde d'autre part. Nous avons vu que cette théologie des énergies divines était donc présente chez les pères. Nous avons suivi même le mot énergie qui est présent dans l'Ancien Testament. Et il est présent en particulier dans le livre grec dans l'Ancien Testament. Nous avons cité par exemple un passage du livre de la Sagesse. Il est présent dans les évangiles, il est présent surtout chez saint Paul. Et voilà, nous avons parlé de saint Paul. Puis nous sommes remontés à travers les pères et nous avons vu aussi que les pères n'utilisaient pas toujours la même terminologie. La terminologie de base étant essence-énergie, on trouve aussi la terminologie union et distinction. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, et nous avons expliqué pourquoi. Nous avons vu qu'au-delà de ces différences, de ces nuances de vocabulaire et ces nuances de la pensée, il y a un consensus, si vous voulez, chez les pères, un consensus très général qui repose fondamentalement sur le texte biblique. C'est-à-dire, ça, c'est très important. C'est-à-dire que la révélation dont nous parlons n'est pas le fait de quelques philosophes, quelle que soit leur valeur par ailleurs, mais elle est la révélation du texte biblique, elle est la révélation du Dieu qui se manifeste dans l'histoire, Et nous avons vu en particulier le rôle que pouvait avoir l'interprétation de passages où Dieu se manifeste dans l'Exode et où il est dit que nul ne peut voir la face de Dieu, mais que l'on peut voir son dos. Et un des premiers commentateurs de ce passage, c'est Philon d'Alexandrie, qui explique que Dieu est inconnaissable dans son essence, mais connaissable dans ses énergies, qui sont dans son sillage, en quelque sorte, qui sont derrière lui. Voilà, donc nous sommes remontés, et il faut bien remarquer quand même que l'élaboration autour de cette notion va être le fait aussi des débats théologiques, des controverses théologiques, avec quelques points forts. On pourrait dire que, par exemple, la controverse des Cappadociens contre Eunome va être un moment fort de l'élaboration théologique sur la notion d'énergie divine, ou alors le sixième concile œcuménique, où il va être question du mono-énergisme, et où Maxime le Confesseur va apporter une très grosse contribution à cette notion d'énergie divine. Donc voilà en gros ce que nous avons survolé, et donc on voit que bien avant, donc par la masse, les pères ont travaillé cette notion. On voit aussi que, bien sûr, à l'origine, il y a une influence de la philosophie grecque, en particulier d'Aristote, mais nous avons vu aussi que par la compréhension qu'ils avaient de la notion d'énergie, ils s'éloignaient beaucoup d'Aristote et que c'est une notion proprement patristique. Disons que pour Aristote, c'est essentiellement l'actualisation d'une puissance, on pourrait dire, alors que pour les pères, le sens dans lequel ils prennent énergie, c'est plutôt dans le sens d'une opération, d'une activité, voilà, qui est prime sur la notion d'actualité. Nous avons vu aussi que dans le vocabulaire qui est employé, parfois certains pères emploient le terme de dynamisme, puissance, au lieu de celui d'énergie, mais on a vu aussi que dynamis employé avec énergie a un sens particulier, parce que dans ce cas-là, il signifie une capacité ou une faculté. Et que donc la puissance se rattache toujours à une nature, physis, qu'elle soit individuée ou individuelle, ou qu'elle soit plus générale comme l'essence, dont elle est la capacité ou la faculté. Et donc, la notion d'énergie se situe souvent dans la triade essence, nature, puissance, énergie. L'énergie, donc, ne se rapporte pas à l'hypostase, c'est-à-dire à la personne divine, sinon dans son mode d'opération, pour autant que l'hypostase soit douée de libre arbitre. Cinquième remarque fait l'archet aussi, toute essence ou nature possède une énergie qui indique la nature ou l'essence à laquelle elle se rapporte et qu'elle fait connaître. C'est-à-dire que étant une nature individuée, si vous voulez, une nature humaine individuée, j'ai une énergie, c'est-à-dire que j'ai une capacité d'opération qui indique la nature et l'essence auquel se rapporte, c'est-à-dire, dans le cas présent, c'est moi. Donc nous avons en quelque sorte un mouvement de la nature qui aboutit à l'opération. Donc nous avons une relation entre nature et énergie. Cette distinction entre essence et énergie s'applique aussi à Dieu. Tous ces thèmes que j'énumère maintenant se retrouvent dans le livre de l'Archée et s'appuient tous sur des passages patristiques. Les pères parlent soit de l'énergie divine ou des énergies divines. On va revenir sur cette question. La multiplicité des énergies ne porte pas atteinte à l'unicité, l'unité et la simplicité de Dieu. C'est exactement la même chose, c'est lorsque l'on parle du Saint-Esprit, par exemple, et des dons du Saint-Esprit. Le fait qu'il y ait une multiplicité des dons du Saint-Esprit, comme le dit saint Paul, ne porte pas atteinte à l'unité du Saint-Esprit. Donc vous avez la même chose dans ce cas-là. La distinction entre l'essence et l'énergie n'est pas une distinction conceptuelle. Que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas une distinction abstraite, ce n'est pas une distinction selon le raisonnement, mais que c'est une distinction qui est bien réelle. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une distinction entre l'essence et l'énergie, et que c'est une distinction réelle et objective. Enfin, les trois hypostases divines ont la même énergie. Pourquoi ? Parce que la même nature. Donc une nature, une énergie, qui peut se manifester aussi sous de multiples aspects. Et alors, on a vu d'ailleurs que c'était un raisonnement qui avait été utilisé, par exemple, par saint Athanase d'Alexandrie pour prouver la divinité de l'Esprit-Saint. Il avait dit, voilà, l'Esprit-Saint a une énergie qui est la même que celle du Père et du Fils. Il a donc la même nature. C'est-à-dire qu'il avait pris le raisonnement à l'envers, et par là, il avait prouvé, c'est dans les lettres à Sérapion, il avait prouvé la divinité de l'Esprit-Saint. Enfin, Dieu est inconnaissable dans sa nature, nous l'avons vu ça aussi, mais connaissable et exprimable dans ses énergies. Mais ces énergies ne sont pas pleinement connaissables. Pourquoi ? Parce que, par exemple, nous ne connaissons pas d'où viennent ces énergies, comment elles se produisent. C'est quelque chose qui nous dépasse. Les énergies divines correspondent aux différentes formes d'activité ou d'opération de Dieu dans le monde, mais aussi à des qualités ou à des attributs de Dieu. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, on avait vu un texte tiré, si je me souviens bien, du livre de la sagesse, où on disait que la sagesse est le miroir sans tache de l'énergie divine. Ça veut dire que la sagesse, telle qu'elle est exprimée, dans sa concrétude, en quelque sorte, est un reflet d'un attribut divin qui se trouve à un niveau, évidemment, suréminent. Donc, les énergies ne sont pas pleinement connaissables. Ces qualités ou attributs de Dieu sont désignés par des noms divins. Effectivement, la sagesse, par exemple, est un nom divin. La bonté, la miséricorde, etc. Cette mise en rapport des énergies avec les qualités ou attributs de Dieu montre que celles-ci ne doivent pas être considérées seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan théologique. Ça veut dire que ces attributs de Dieu, si vous voulez, ne sont pas seulement présents dans les manifestations de Dieu, mais ils existent aussi, d'une certaine façon, en Dieu, sans pour autant porter à son unité, atteinte à son unité. On peut aussi parler d'une communication des énergies divines du Père par le Fils dans le Saint-Esprit. On avait vu ça. C'est même le mode normal de la communication. Les énergies correspondent à un certain rayonnement de l'essence ou de la nature divine. Les pères les désignent comme ce qui est autour de l'essence. Pourquoi ? Parce que l'essence, justement, précisément, est inconnaissable. Et elle reste toujours inconnaissable. Donc, les énergies étant, d'une certaine façon, des expressions de l'essence, ne sont pas non plus l'essence. C'est pour ça que les pères ont fait très attention pour dire qu'elles ne sont pas l'essence, mais qu'elles sont autour de l'essence. L'énergie divine sont aussi mises en rapport avec la gloire de Dieu, ou la lumière divine. La lumière est une énergie divine, et l'énergie se manifeste souvent comme une lumière dans la lumière. Les énergies divines se manifestent dans le monde où elles sont omniprésentes. Elles enveloppent et pénètrent toute créature. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les énergies divines sont présentes dans le monde, qu'elles pénètrent en quelque sorte. C'est ce que disait d'ailleurs Jean Damascène. Je m'incline devant la matière qui est transfiguré par l'énergie. C'est-à-dire que nous avons là quelque chose de tout à fait spécial, tout à fait particulier. C'est-à-dire que la matière n'est pas conçue, si vous voulez, comme étant en opposition avec quelque chose de spirituel, mais bien quelque chose qui peut être transfiguré ou transpercé même par cette énergie divine. Donc ces énergies divines se manifestent dans le monde où elles sont omniprésentes. Tous les êtres, donc nous participons tous à elles de façon diverse, et elles apparaissent comme des qualités divines participées. Les énergies divines sont aussi transcendantes à toute chose. Et quand il se communique à ses créatures, Dieu est pleinement présent dans ses énergies. C'est-à-dire que l'énergie est Dieu. Et nous verrons ça aussi par la suite. L'énergie est Dieu totalement. Elle n'est pas une partie de Dieu, elle n'est pas quelque chose non plus qui séparerait Dieu ou qui introduirait la multiplicité en Dieu. Les énergies communiquées ont un caractère individuel et inépuisable. Les énergies sont communiquées de manière privilégiée aux hommes. Effectivement, les hommes sont plus à même de percevoir les énergies divines dans la mesure où ils sont... Enfin, la finalité de l'homme, c'est justement d'être divinisé et transfiguré par l'énergie divine. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien étroit entre l'énergie divine et l'homme. Elle constitue aussi les charismes, diversement attribués par l'Esprit Saint. Et l'Esprit est le donateur des énergies divines, mais elles sont distinctes de sa personne, donc l'énergie. L'Esprit transmet les énergies divines, mais les énergies divines sont distinctes de sa personne comme de sa nature. Et c'est par l'énergie ou les énergies divines que s'effectue en l'homme la sanctification, mais aussi la déification. Par conséquent, les énergies divines sont incréées, ce qui s'applique aussi à la grâce comme énergie communiquée et donnée. Donc ça, ce sont les conclusions de l'archet. Qui conclut en quelque sorte toute son étude sur la théologie des énergies divines dont nous avons parlé la dernière fois. Je voudrais Simplement, peut-être rajouter des petites remarques qui me semblent relativement importantes. En particulier, nous avons un problème de traduction. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous prenez la version italienne, dont j'ai déjà parlé, des œuvres de Saint-Grégoire Palamas, nous voyons que l'auteur a traduit énergie par acte, atto, en italien. Effectivement, c'est une traduction qui s'appuie sur la définition aristotélicienne de la puissance et de l'acte. On avait expliqué ce que c'est que la puissance et l'acte en disant en puissance, je peux apprendre le roumain. Et lorsque je me mets à l'apprendre, eh bien, je l'apprends en acte. Et ça, c'est la distinction entre la puissance et l'acte. Et on a vu que si cette traduction est fidèle à Aristote, elle est en revanche très éloignée de la pensée des pères. Donc elle n'est pas bonne en soi, mais dans une certaine mesure, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Parce que l'auteur est un traducteur conséquent et il traduit toujours de la même façon. Donc nous savons à chaque fois qu'il y a le mot « acte » que c'est en fait le mot « énergie » dont il s'agit. C'est comme un signal, si vous voulez. Donc on peut corriger mentalement cette traduction. Ce qui importe dans une traduction, c'est un principe, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire de traduire dans la mesure du possible le même mot de la même façon. Ce n'est pas toujours possible, mais enfin, il faut essayer de s'y employer. Le problème, si vous voulez, c'est que, par exemple, je suis en train de traduire un texte de Saint-Grégoire Palamas, qui se trouve dans la Philokalie, qui s'appelle les 150 chapitres. Bon. Saint-Grégoire Palamas cite de nombreux passages où les pères parlent de l'énergie. Eh bien, je peux vous dire que à chaque fois que je regarde dans les sources chrétiennes, parce que ce sont des passages de pères connus qui sont répertoriés dans les sources chrétiennes, le mot est jamais, jamais, je ne l'ai pas trouvé une seule fois traduit par énergie dans les sources chrétiennes. Alors, on peut faire deux remarques. D'une part, il y a une traduction qui est correcte, c'est de traduire opération ou activité. Ça, on peut l'admettre. Mais il y a aussi, et c'est ça qui est plus grave, c'est qu'on varie les traductions dans les textes. Et si vous variez les traductions dans les textes, si vous n'avez pas une cohérence dans la traduction, la notion même disparaît. Vous ne la voyez plus. Passez muscade, et ça arrive dans beaucoup de textes. Alors effectivement, après on vous dira, oui, la notion d'énergie n'est pas une notion patristique. Il faudrait effectivement revoir un petit peu ces manières de traduire. Donc ça, c'est une remarque, si vous voulez, de fond, qui est liée, en fait, à l'imprécation, pourrait-on dire, que l'on trouve dans ce dictionnaire de la théologie catholique, qui explique que c'est une invention de Palamas. Nous avons montré largement que ce n'était absolument pas le cas. En fait, ce qui est plus grave, c'est que vous avez là une séparation entre l'Orient et l'Occident. Au moins au niveau de la théologie officielle, il faudrait être beaucoup plus prudent. Bon, par exemple, si on prend un père comme Augustin, on voit que lui aussi est influent. Il ne connaissait pas le grec. Il connaissait très peu les pères grecs. Il est influencé par le néoplatonisme, par le manichéisme, et lui aussi parle d'une essence close, et c'est Augustin qui a été en quelque sorte un socle en Occident, sur lequel se sont appuyés après ça certains spécialistes, certains théologiens, pour élaborer leur théologie. Saint Jean Cassien s'est heurté à Augustin sur la question de la grâce, par exemple. C'est un des aspects de la théologie d'Augustin qui est en désaccord avec celle des pères. Donc, on a d'un côté, au fond, un monde qui est vidé de Dieu. Et de l'autre côté, un monde qui baigne d'une certaine façon dans les énergies divines. Donc, et tous les théologiens ont insisté sur le caractère très néfaste, si vous voulez, de cette vision des choses. Pourquoi ? Je vous lis par exemple un petit passage de l'introduction du livre de Mgr Amphiloche Radovitch, Le mystère de la Sainte Trinité selon Saint Gaspard Palamas. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Dès lors apparaît clairement l'importance considérable de la réaction de la théologie palamite contre ses précurseurs byzantins de l'humanisme de la Renaissance, entre guillemets, qui culmina de nos jours avec la proclamation d'un Dieu mort et inexistant. Le Dieu abstrait ne diffère pas beaucoup du Dieu mort, il en est le précurseur. C'est un tel Dieu que les humanistes du XIVe siècle voulurent introduire au cœur de l'Église sous prétexte d'un combat pour l'orthodoxie et pour la simplicité de l'être divin. L'Orient orthodoxe ne suivit ni ses chemins ni ceux de l'Occident, précisément parce qu'il a suivi Palamas et la tradition éthicaste, très profondément enracinée dans la tradition biblique et patristique. L'unique point de départ de Palamas, c'est la présence vivante de la Trinité par le biais de l'incarnation du Fils et de l'énergie incréée comme une des hypostases à laquelle participent les êtres créés. La manifestation et la participation de l'énergie et de la gloire de la Trinité témoignent empiriquement du mystère incompréhensible de l'action du Dieu trinitaire. La façon dont Palamas la conçoit est, pour ainsi dire, trinitaire, par distinction avec l'approche moniste de ses adversaires. Leur incapacité à admettre l'énergie incréée de la Trinité est, selon Saint-Gégloire, une preuve de leur refus camouflé des hypostases et de l'identification de celle-ci avec l'essence. Par conséquent, la structure trinitaire de la pensée du Saint, qui détermine aussi son anthropologie, résulte de sa fidélité aux grandes figures patristiques qui l'ont précédée. Cette fidélité s'amplifie par la fidèle coïncidence de sa théologicité avec la leur. Tout cela témoigne de la très grande importance de la doctrine trinitaire de Palamas pour la juste compréhension de sa théologie en général et de la portée du témoignage de Palamas pour notre époque, en particulier dans la résolution de ses problèmes. C'est un fait que le monde contemporain n'est pas le monde de Palamas et qu'il suit plus que jamais les traces de ses adversaires. Mais derrière l'empirisme des cinq sens qui caractérise ce monde se cache la soif d'une plénitude empirique de l'être humain qui s'y reflète comme dans un miroir brisé. Il se peut que la découverte par la science de l'infini de l'univers au sein duquel l'homme apparaît comme inexistant, la conscience des limites de la raison comme du sentiment du caractère tragique de son autonomie et l'irrationalité démoniaque de la jouissance sensible pousse l'homme contemporain à rechercher l'authentique plénitude de son être. Si oui, alors Saint-Gaspard Palamas se présente devant lui tel un prophète d'une taille immense, ainsi que le guide sûr, tant pour la purification empirique que pour la plénitude de l'être humain, qui se réalise par la participation à la gloire trinitaire de la chair du Fils de Dieu, et par elle à la plénitude du Dieu trinitaire, qui parachève tout en tous. Par conséquent, le questionnement concernant l'enseignement de Palamas sur le mystère trinitaire se transforme de question théorique en problème concernant l'existence et le salut de l'homme. Avoir une autre approche du mystère impliquerait une trahison de Palama, c'est-à-dire sa façon de vivre comme de penser. Je m'arrête là, donc c'est la page 39-40 de son ouvrage. Et justement, ce passage fait la transition avec le sujet que je voudrais aborder ce soir, à savoir la question de la compréhension des énergies divines dans un cadre trinitaire. Le livre de Mgr Amphilocle donc, est tout entier basé sur cette question. Dans la mesure où, pour lui, si vous voulez, on ne peut pas envisager des problèmes particuliers de la pensée de Palamas sans les resituer dans l'ensemble de la théologie trinitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper, en quelque sorte, une question pour en faire une sorte de problématique philosophique en la séparant de son contexte trinitaire. Et donc, ce que nous faisons ce soir, c'est d'essayer de resituer en quelque sorte cette question de l'énergie divine dans le contexte trinitaire. La Trinité structure en fait notre existence aussi bien sur le plan de son être que sur celui de sa connaissance. Et la démarche de Saint Grégoire se résume dans sa prière. Mon Dieu, illumine mes ténèbres. Protisontos kotos mou. C'est une prière. Et cette démarche est à la base de sa connaissance. Car ce n'est qu'en prenant mesure de toute son insuffisance que l'homme découvre par où il peut s'approcher de la lumière pour recevoir de la lumière de la connaissance et la vraie sagesse. Le mystère de la Trinité transcende par excès tout ce que l'on peut en dire. Il ne conduit pas à l'agnosticisme, mais il conduit à renoncer à la logique humaine. Ce que l'on peut connaître de Dieu relève d'une expérience vécue comme une purification de la personne qui l'amène à sortir du créé pour recevoir le don de la connaissance accordée par l'illumination de l'Esprit-Saint. Il ne s'agit pas d'une procédure logique, mais d'une participation à la lumière invisible. La théologie négative ne s'oppose pas à la théologie positive, mais elles ne peuvent se passer de la foi, car la foi est une expérience supérieure à toute logique. La foi est illogique en quelque sorte. Le fait de recevoir et de voir les choses divines est quelque chose d'autre et de supérieur à la théologie par affirmation. De même, recevoir la négation dans la vision spirituelle est quelque chose d'autre et de supérieur à la théologie négative. Elle suppose la guérison de l'intellect malade de l'homme et le don accordé par Dieu. Nous ne sommes pas poussés à faire de la théologie selon des principes issus de l'opinion commune, mais nous recevons à ce propos des enseignements divins, immuables car issus de Dieu. Cette connaissance se fonde sur une condescendance de la Trinité à la faiblesse de l'homme. Donc la connaissance naturelle est de deux sortes. Par la créature, nous savons que Dieu est, mais nous ignorons qui il est. Par la purification de l'intellect, l'homme peut acquérir un sens spirituel, c'est une constante chez les pères, qui nous donne accès à la contemplation spirituelle des êtres et des choses. Par les êtres, il contemple la puissance et l'énergie de Dieu. En outre, par l'énergie, il est enseigné à l'homme que l'essence est. Cette contemplation est le fruit d'une purification des organes de la connaissance. Ici, donc, Mgr Amphilocle résume, si l'on peut dire, le trajet de la vie spirituelle. Les premières phases de la vie spirituelle sont constituées par une phase de purification intérieure et de lutte contre les passions. C'est seulement en se consacrant à cette lutte, à ce combat spirituel, que nous pouvons à ce moment-là commencer à percevoir les réalités spirituelles. Et nous les percevons par le biais d'un sens spirituel qui vient se développer au fur et à mesure de notre évolution spirituelle. Et ce sens spirituel nous donne accès à la contemplation spirituelle des êtres et des choses. C'est-à-dire que nous pouvons à ce moment-là concevoir, nous pouvons appréhender les êtres et les choses, non plus seulement selon leur apparence, mais selon ce que Dieu veut qu'elles soient. C'est ce qu'on appelle aussi les logoi. C'est-à-dire que le logoi d'un être, le logos d'un être, c'est en quelque sorte l'expression de la volonté divine dans cet être. Et par le biais de cette contemplation, il contemple la puissance et l'énergie de Dieu. L'homme lui-même est d'une certaine façon une image de la Trinité. L'homme, au même titre que Dieu, demeure inaccessible à la connaissance naturelle. Ce n'est que par la manifestation de celui qui est l'image que l'homme créé à l'image de Dieu devient compréhensible. C'est très important. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qu'est l'homme, c'est que la manifestation de celui qui est créé à l'image, c'est-à-dire le Christ, que l'image de Dieu que nous sommes devient compréhensible. La révélation est la source de la théologie comme aussi de l'anthropologie. Le récit biblique de la création est une manifestation de la Sainte Trinité. Comme vous le savez, dans la création, le Père parle et l'Esprit est présent et plane sur les eaux. Et l'homme est le point de convergence de la création. C'est effectivement l'homme qui est le but de la création, qui la couronne, dans la mesure où il participe à tout, mais seule la participation à Dieu, qui est au-delà de tout, accorde la perfection à son image. Dans sa pureté, la nature humaine est une manifestation de l'être et du mode d'être de Dieu. Elle est faite à l'image de la Trinité, car pourvue d'un intellect, nous, de la parole, logos, et d'esprit. Donc là, nous avons une idée, si vous voulez, qui est assez ancienne dans la théologie, puisqu'on la trouve déjà dans la théologie alexandrine, à ma connaissance. C'est une image, simplement. C'est-à-dire que l'homme reflète la Trinité dans la mesure où il est porteur d'un nous, d'un intellect, il a le logos, le verbe, et il a aussi pneuma, un esprit. Donc cet esprit, d'ailleurs, est vivifiant, car il vivifie le corps. Il est par nature une demeure où la Trinité peut se complaire. Par la puissance de l'intellect, il acquiert la connaissance et la puissance de la charité qui sont concrétisées dans l'esprit. Ces puissances, lorsqu'elles se tournent vers le centre de l'homme en revenant à sa simplicité et à la pureté durable de l'âme, pénètrent dans le repos divin et s'élèvent vers la vision de Dieu. Effectivement, le but, si vous voulez, peut-on dire, de la prière, et en particulier de la prière Ézéchias, c'est d'abord un rassemblement de l'homme. L'homme qui se disperse, qui est dispersé, et dont l'esprit est dispersé par de multiples choses, tend à se rassembler et à se tourner vers lui-même. Donc il y a un mouvement, si vous voulez, circulaire de la prière qui fait que par ce rassemblement, dirigé vers le centre de l'homme qui est le cœur, l'homme peut s'élever vers la vision de Dieu. Et malgré la chute, le projet de Dieu subsiste, sauver l'homme de la mort et de la corruption, et dans cette perspective, le repentir, la purification des pensées, l'humilité, le deuil, la prière interrompue, peuvent effacer le masque hideux attaché à l'errance d'ici-bas. C'est-à-dire que le présupposé de la vie spirituelle suppose quand même un mouvement de repentir, un mouvement du fait qu'on se sente pécheur. Le Christ disait « Je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu pour les pécheurs. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis venu pour ceux qui ont en eux une capacité justement d'humilité, de se reconnaître pécheur, pour laisser une place à la présence de Dieu. L'économie divine consiste dans la manifestation du mystère de Dieu dans l'histoire par la création de l'homme, par sa providence, par sa pédagogie à l'égard de son peuple, par l'incarnation du Christ, ses œuvres théo-andriques et la diffusion de l'Esprit-Saint. Donc ce sont des étapes vers la manifestation de la plénitude de Dieu qui culminent dans le retour et le repos de tous les êtres en Dieu. Donc vous avez, si vous voulez, un mouvement qui est un mouvement, double mouvement, qui est d'une part le mouvement de la création, qui est une création en raison de la bonté de Dieu, qui crée en quelque sorte le monde, l'univers, et l'homme qui par son activité retourne en quelque sorte vers Dieu. Donc vous avez un mouvement aussi bien d'aller que de retour. Ça a été décrit par plusieurs pères en détail, et ce mouvement de retour est aussi, on pourrait dire, la fin du mouvement, puisqu'il est un repos, c'est-à-dire que c'est le repos de l'homme en Dieu. Cette révélation est progressive et pédagogique dans l'Ancien Testament. Donc ce qui est d'abord obscur dans l'Ancien Testament devient la profession de foi du Nouveau Testament. Le Dieu-homme est manifestation de Dieu tout en donnant tout son sens à l'homme et à la création. L'homme acquiert le plus élevé des dons, celui de s'unir à Dieu dans une seule hypostase. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que l'union du Christ, l'union en Christ de la nature humaine et de la nature divine, ouvre également la possibilité pour l'homme d'avoir une connaissance directe de Dieu. Par l'incarnation, donc, débute une nouvelle ontologie, pourrait-on dire, et une nouvelle gnoséologie, une forme de connaissance, en s'incarnant. Le Christ révèle le Père comme Père, le Fils comme Fils et l'Esprit-Saint comme procédant du Père. Cela témoigne de l'incarnation comme manifestation unique de la Sainte Trinité et de l'Église, comme constituant l'espace de sa manifestation continuelle. Donc l'Église, dans cette perspective, devient, comme dirait Saint Éloi Palamas, une kinonia theotitos, c'est-à-dire une communion ou une communauté de divinisation. C'est dans l'Église, c'est par l'Église que nous bénéficions donc des énergies divines de l'Esprit Saint et qui nous divinisent. Et l'unité selon l'hypostase est le terme de tout mouvement de ceux qui se meuvent vers Dieu. Donc effectivement, on peut dire que d'une certaine façon, si vous voulez, le Christ, par sa kénose, en quelque sorte, se vide de sa divinité pour assumer notre humanité dans une seule et même hypostase. De la même façon, peut-on dire, nous avons, nous, comme rôle d'éliminer tout ce qui peut empêcher tout ce qui entrave cette union avec Dieu, et par ce mouvement même, nous unir avec Dieu. Donc le Christ est le centre et le fondement de la révélation trinitaire, et cette unité se fait d'une certaine façon dans l'hypostase humaine elle-même. Par la manifestation de son hypostase, le Verbe témoigne non seulement de Dieu comme personne, mais de ses énergies comme étant des énergies personnelles et non pas impersonnelles. Donc la lumière du Christ, cette gloire qui est la sienne, c'est son énergie divine. Il faut que tu saches aussi que notre propos et notre combat, dit Saint Grégoire Palamas, ne sont pas simplement menés pour la divinité ni pour l'énergie divine, mais pour la lumière divine et ineffable dont resplendissait le Sauveur, qui a montré sur la montagne la splendeur de la nature divine avec laquelle il communie avec les saints. Donc il y a une manifestation progressive de la Sainte Trinité. L'Ancien Testament proclame clairement le Père et de façon plus obscure le Fils. Le Nouveau Testament manifesta le Fils et montra la divinité de l'Esprit. C'est le Fils qui envoie l'Esprit dans le Nouveau Testament le jour de la Pentecôte. Il se manifeste comme ayant une hypostase propre par le déversement de ses énergies. Cette présence de l'Esprit comme purification et préparation est un état stable de l'existant qui se trouve dans l'Église et auxquels ont été introduits par le baptême. Donc, on peut dire que le baptême va activer en nous cette capacité à être, à participer à la nature divine. Et un père comme saint Marc Lassète va expliquer que lors du baptême, nous recevons en quelque sorte la totalité de l'énergie divine, la grâce de l'Esprit Saint, et que notre travail à nous consiste justement à la manifester, à la rendre évidente, à la dévoiler en quelque sorte. Cette présence de l'Esprit comme purification et préparation est un état stable de l'existence qui se trouve dans l'Église. Le Saint-Esprit rend trinitaire l'existence de l'homme. Donc on a insisté, le père Jean Bobok a insisté aussi sur ce caractère trinitaire de l'homme. Et le Saint-Esprit peut être considéré comme étant la troisième partie de l'existence de l'homme. Pour Siméon, le nouveau théologien, l'homme est constitué de trois parties, la grâce, l'esprit, l'âme raisonnable et le corps terrestre. Donc voilà, nous avons la grâce de l'esprit et c'est la grâce de l'Esprit Saint qui, en quelque sorte, nous fait sortir du tombeau. La grâce de l'Esprit est la condition de la résurrection du tombeau de la logique humaine. Et donc c'est par le baptême que nous sommes introduits dans cette problématique, et c'est par notre vie dans l'Église, tout ce que cela veut dire, enfin la participation au sacrement, etc., c'est par cette vie dans l'Église que nous réalisons en quelque sorte notre finalité. Donc on peut dire qu'il y a un certain mouvement de montée vers Dieu jusqu'à et que ce mouvement, comme dirait Saint Grégoire de Nyssa, c'est une épectase, c'est-à-dire que c'est un mouvement en quelque sorte sans fin qui tend vers le repos, la stasis, où l'homme peut se reposer en Dieu. Quelle conception maintenant a le Saint du Dieu trihypostatique? Le Père d'abord. Le Père est un. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'une seule cause dans la Trinité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez une trinité, vous avez une seule cause dans la trinité, et que cette cause, c'est le Père. Il n'y a qu'un seul principe, le Père, et une seule nature divine commune aux trois. Le Père est la divinité qui engendre Dieu. Il est source et principe de la divinité. Donc, le Père est sans cause. Il constitue l'union, le lien et celui qui maintient la cohérence de la Trinité. Donc il y a une distinction d'une certaine façon entre le mode caché de Dieu selon l'hypostase du Père et son mode d'existence selon la manifestation en tant qu'œuvre commune des trois hypostases, jaillit précisément du mystère même du Père. Je vous rappelle que le Fils est engendré par le Père, et que l'Esprit-Saint possède du Père. Le Fils, il est depuis toujours Fils unique, consubstantiel au Père et de même puissance que lui. Il est sans commencement et par lui tout a été créé. Ça, c'est quelque chose que nous disons dans le symbole de foi et dont nous ne nous rendons pas toujours compte de l'importance. C'est-à-dire que c'est par le Fils que l'univers a été créé. Ça veut dire que l'univers entier est quelque part marqué par la présence active de la création du Fils. Et il est celui qui révèle le Père. Et pour beaucoup de commentateurs patristiques, par exemple dans l'épisode du Buisson Ardent, où Dieu, dans l'Exode 3.14, Dieu se manifeste et il dit « Ego, emi, o, on ». Je suis celui, o, on, c'est un participe présent, on traduit généralement qui est. Et pour beaucoup de commentateurs patristiques, c'est le Fils qui parle. C'est le Fils qui parle parce que c'est celui qui révèle le Père. Mais cet aspect, évidemment, n'est pas dévoilé encore dans l'Ancien Testament et il ne pourra être compris véritablement que par le Nouveau Testament. Il est la sagesse hypostasiée du Père et le jour de la théophanie, il a été manifesté que le Fils est au-delà de tout le visible, comme étant éternellement uni avec le Père et l'Esprit, c'est lui qui oint par lui-même ce qui a été assumé de nous. Ça veut dire que d'une certaine façon, il oint aussi notre nature et prend le nom de Christ. Vous savez que Christ, ça veut dire celui qui est oint. C'est une traduction en fait de l'hébreu. Celui qui était oint, c'est le Machiar, c'est le Messie, et c'était aussi, par exemple, les rois recevaient l'onction, etc. Donc c'est une onction. Et cette onction, qui représente aussi l'Esprit, cette onction est celle de toute l'humanité, parce que le Christ est fait homme. Et recevant cette onction, l'humanité devient en quelque sorte constitué, se rend constitué comme étant fils adoptif du Père. Donc nous avons un rapport, si vous voulez, dont on ne se rend pas toujours compte, mais nous avons un rapport de filiation très important avec le Père. Et lorsqu'on disons notre Père, la prière la plus courante, eh bien, ça veut dire aussi que nous avons un rapport de filiation directe avec le Père et qu'il n'y a pas cette rupture que l'on trouve dans d'autres théologies. Donc, cette onction qui est celle de toute l'humanité fait des hommes des fils adoptifs du Père et il mène ainsi toutes choses vers l'unité avec lui. Les fidèles qui suivent le Christ avec foi et obéissance et communion dans l'Église, eh bien, ils s'approchent, ils participent aussi à la gloire du Fils de Dieu, ils éclairent par le repentir l'union nuptiale dans la pureté. L'Esprit vient du Père par le Fils. Nous apprenons que l'Esprit procède de Dieu. Comme le troisième personne de la monade trinitaire. Sa descente sur nous, c'est la descente pour notre salut, par un amour de l'homme sans pareil. Il est issu du Père avant tous les siècles, sans écoulement, impassiblement, non par engendrement, mais par procession, étant inséparable du Père et du Fils, puisqu'il est issu du Père, il repose dans le Fils. Donc l'Esprit, indivisiblement divisé et imparticiblement participé par ses énergies, ne connaît pas un amoindrissement de la divinité, ça on a déjà parlé. Et d'éternité, mais il demeure toujours le même. Derrière le mystère de la création et en lui se dissimule le mystère du Saint-Esprit et de son énergie. Et en ce dernier mystère, celui du Dieu Père et de son Verbe, mais quand l'Esprit se manifeste, il est envoyé par le Fils et s'introduit dans le devenir historique des êtres pour accomplir leur rénovation ou leur nouvelle naissance. Cela vient par le rassemblement de toutes choses en le Fils et pour faire des hommes des êtres divino-humains, vivant et réglant leur existence sur le Christ. L'Esprit Saint dépasse la vie déifiante qui est en lui et qui provient de lui, car elle est sa propre énergie naturelle. Voyons maintenant ce qu'il en est des unions et des distinctions dans la Sainte Trinité. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant notre Dieu est un Père, Fils, Saint-Esprit, existant en une seule essence et en une seule énergie, étant consubstantiel et de même puissance. Donc nous avons une seule énergie des trois hypostases, distincte de l'essence et indivisiblement divisée. Donc il y a une distinction qui est faite dans la Trinité entre les propriétés naturelles qui relèvent de la nature et les propriétés qui relèvent de la personne, de l'hypostase, des propriétés hypostatiques. Par exemple, pour le Père, le fait d'engendrer et de faire procéder sont des propriétés hypostatiques, mais le fait de créer est une propriété de la nature divine, propriété naturelle. Donc le mode éternel d'existence de Dieu est différent du mode d'existence de sa création. Si les deux modes étaient identiques, l'engendrement par le Père comme le fait de faire procéder serait la même chose que la création selon la volonté. Les adversaires de Palamas identifient les deux. La création est une œuvre de Dieu ad extra, distincte du mode d'existence éternelle. Elle n'est pas le produit d'une nécessité, mais d'une libre volonté de Dieu. Le fait de créer n'est pas le signe distinct d'une des hypostases, mais de l'énergie commune de la Trinité. La multiplicité des êtres créés est le mode différent de leur participation aux énergies divines, ainsi que la création dans le temps démontre en outre qu'il existe une distinction ineffable entre les énergies divines. Dieu n'est pas un être abstrait. Ce n'est pas l'actus purus d'aristotélicien, mais le Dieu trinitaire, personnel, qui est non révélé selon l'essence, mais qui dans le temps, conformément à sa volonté et à sa bonté personnelle, se manifeste et crée toute chose. En tant qu'être personnel et doué d'une volonté, Dieu fait usage des énergies qui appartiennent à son essence, selon son libre arbitre, au moment où il le juge bon, et conformément à la mesure et au dessein qu'il a conçu de toute éternité. Donc nous avons une distinction qui se produit en Dieu de façon indivisible, aussi bien selon les hypostases que selon les énergies. Par là, nous sommes introduits au mystère de la compénétration des personnes et de l'unité. Donc les hypostases ne divisent en rien la nature divine. La nature divine est commune aux trois hypostases. Par ailleurs, il y a compénétration des trois hypostases divines. Et c'est un terme donc, que l'on emploie. Le terme est périchorèse. P-E-R-I-C-H-O-R-E-S-E. C'est la compénétration des personnes et de l'unité et indivisibilité sans confusion de l'être divin. C'est important parce que cette périchorèse, elle est aussi le fondement de l'unité divine. Cette compénétration est le fondement de l'unité divine. C'est pour ça aussi que nous pouvons parler d'un seul Dieu. Plusieurs raisons. Nous pouvons parler d'un seul Dieu parce que d'abord, comme dirait saint Basile, un seul Dieu parce que Père, c'est-à-dire que c'est le Dieu Père qui engendre en quelque sorte le Fils, qui fait procéder l'Esprit. Donc il y a une unité centrale dans la Trinité qui est liée aussi au Père. Et c'est l'essence du Père que les personnes divines aussi partagent. Sans la partager. Le deuxième aspect, si vous voulez, c'est le fait que ces trois personnes se compénètrent. Cette périchorèse, compénétration des personnes, qui aussi est le fondement de l'unité divine et de l'unité de l'énergie divine. C'est pour ça que l'on parle d'une énergie divine, même si elle se manifeste sous de multiples formes. Donc la distinction qui est en Dieu, elle se produit de façon indivisible, aussi bien entre les hypostases et entre les énergies. Selon son langage apophatique et antinomique, Saint-Goar Palamas parle de Dieu qui est indivisiblement divisé. Non seulement est au-dessus du tout comme de la partie, quand on pourrait dire qu'il est tout et la partie, en fait on peut dire tout de lui, à l'exception de ce qui lui est propre. Alors ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est une vision de Dieu, n'est-ce pas, qui est hyperousios, qui est au-delà de toute essence. C'est-à-dire, je vais employer une expression un peu forte, je peux dire, en respectant la piété, que Dieu n'existe pas. Parce qu'il est au-delà de l'existence, il est plus que l'existence. C'est-à-dire qu'il comprend aussi l'existence, bien sûr. Vous voyez, il y a une façon impie de le dire, évidemment, mais on peut le dire aussi en respectant la piété. Et en s'exprimant ainsi, on fait comprendre, en quelque sorte, ce caractère, disons, transcendant de la divinité, qui est au-delà de ce que l'on peut en dire. Et c'est ce que l'on dit depuis le début, si vous voulez. C'est ce que l'on trouve déjà dans le récit biblique, lorsqu'on dit qu'on ne comprend pas l'essence de Dieu, mais on peut saisir ses énergies. Dieu sera toujours au-delà. Mais il sera aussi ses énergies. Donc, si vous voulez, on peut dire aussi ce que je veux dire là, à savoir que tout ce que l'on dit de Dieu ne s'applique pas à son essence, puisque son essence est indicible. Elle est au-delà de tout nom. Donc elle s'applique à quoi? Elle s'applique aux énergies. Aux énergies ou aux attributs divins. On verra ça. Donc il y a chez Sergueï Palama, si vous voulez, cette vision, qui est propre au Père et qui est une réalité biblique, si vous voulez, qui découle de l'Ancien Testament, de cette transcendance absolue. Il dit à un moment même, si Dieu est nature, rien d'autre n'est nature. Il veut dire par là que Dieu transcende absolument. Il veut insister sur la transcendance divine. D'autre part, les hypostases ne divisent pas la nature divine. Et là, c'est aussi un autre principe sur lequel il veut insister, c'est que les unions, on en a déjà parlé la dernière fois, les unions transcendent les distinctions. De façon simple, on avait pris l'exemple de l'Esprit Saint. On peut diviser l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut se diviser en multitudes. Ça n'affaiblira jamais l'Esprit Saint. Ça n'entravera en rien son unité profonde. Donc l'union a le pas sur la distinction. De la même manière, si l'on se place, si vous voulez, à un niveau théologique, l'union de l'essence n'est pas divisée, n'est pas amoindrie, n'est pas tout ce que vous voulez, par le fait qu'il y ait des hypostases. Et c'est toujours la même essence qui est présente dans chacune des hypostases. C'est la même essence divine qui est présente dans le Père, qui est présente dans le Fils, qui est présente dans l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas un raisonnement, si vous voulez, comment dirais-je, logique. Depuis le départ, d'ailleurs, un Dieu en trois personnes, je veux dire, ce n'est pas non plus un raisonnement très logique. Mais il faut, et c'est justement ça aussi un des gros problèmes, si vous voulez, c'est qu'il y a une crucifixion de la logique humaine. Et que cette crucifixion de la logique humaine, ça fait partie de l'humilité. Et que si l'on veut, en quelque sorte, s'approcher du mystère divin, il faut accepter, d'une certaine façon, de renoncer à sa logique, à son ego. Et on peut même aller plus loin. On verra peut-être, quand on parlera de la prière hésychaste, que la prière hésychaste, lorsqu'elle atteint ses niveaux les plus élevés, suppose que l'on sorte de soi-même. C'est quelque chose qui vous arrache à vous-même. On verra ça plus tard. C'est une extase. Il faut aller au-delà de l'intellect, au-delà du nous, pour aller à la rencontre de l'énergie divine, de l'Esprit Saint. Bon. De la même façon, l'union est toujours, prévaut toujours sur les distinctions, dans la mesure où Dieu est présent dans chacune de ses énergies. Dieu est présent tout entier dans chacune des énergies divines, sans jamais être divisé par l'énergie elle-même. Du point de vue de l'essence et de l'énergie, Dieu est en quelque sorte un et non un. Il faut donc confesser les deux aspects, la différence comme l'identité, et par les deux rester dans le juste milieu de la piété, dira Palamas. Un langage et une pensée de ce genre sont difficilement compatibles avec la forme de logique scolastique, qui par nature exige une conformité anagogique de l'existence de Dieu avec ses lois, c'est-à-dire avec les lois de l'être créé. C'est-à-dire, c'est une manière de ramener, de rabaisser Dieu au niveau des autres créatures, de le rabaisser au niveau de la création. Credo ut intelliga, c'est-à-dire qu'on veut comprendre, et d'en comprendre, y apprendre. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est ce que dit Monseigneur Amphilocle, la meilleure façon de comprendre Dieu, c'est la prière. Et la prière de Sarigar Palama, c'était « Seigneur, illumine mes ténèbres ». C'est-à-dire que ce n'est pas du niveau de la compréhension humaine, ce n'est pas du niveau de la compréhension du raisonnement, c'est du niveau de l'illumination, la présence de l'Esprit-Saint. Si la personne est muée par l'Esprit-Saint, si la personne reçoit l'Esprit-Saint, l'énergie de l'Esprit-Saint. Donc, je ne vais pas trop... ce sont des choses qui sont fondamentales à comprendre, tout ça, parce que si vous voulez, on se rend compte à quel point, si vous voulez, l'orthodoxie est présente en tant que manifestation de l'unité, de l'union entre Dieu et l'homme. C'est par l'incarnation, par le fait que le Christ est assumé les deux natures, que la nature divine est divinisée. C'est dans l'Église, par la vie dans l'Église, les sacrements, la purification, etc., que l'individu lui-même va participer de plus en plus à la nature divine. Et donc c'est une divinisation. C'est un processus qui s'opère. Et c'est la fonction même de l'Église, pourrait-on dire. C'est pour ça que Palamas dira que l'Église est une kinonia theotitos, est une communion ou une société, une communion de divinisation. Donc, le rôle à ce moment-là du clergé, c'est d'orienter les fidèles, les aider dans leur progression vers cette divinisation. Bon, je vais continuer un petit peu, pas trop, mais avancer un peu. La triple union. Donc, le Dieu trihypostatique a tous les attributs de façon unitaire. C'est-à-dire que lorsque nous disons que Dieu est bon, c'est un attribut de Dieu. Cet attribut de Dieu est commun aux trois personnes de la Trinité, dont la bonté, justement, de la façon la plus inclusive. Dieu a une seule énergie trinitaire et il n'existe qu'un seul principe des êtres créés. La seconde union, puisque nous sommes dans les unions, c'est l'union selon l'essence, suivant laquelle Dieu est au-delà de toute relation et de toute participation, de sorte que la divinité tout entière et dans son unité a aussi les attributs négatifs par excès, dont le plus inclusif est le fait de se trouver au-delà de tout attribut, qu'il soit positif ou négatif, c'est-à-dire le nom qui est au-delà de tout nom. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, finalement. La troisième union, c'est la compénétration péricorès des hypostases, coexistant entre elles de manière permanente et inséparable, en sorte que l'énergie est unique pour les trois hypostases. Le mouvement unique de la volonté divine qui s'élance de la cause principale du Père, donc le mouvement de la volonté divine part toujours du Père, procède par le Fils, se manifeste dans l'Esprit-Saint, ce mouvement à la péricorèse des hypostases comme condition préalable, car il est le mouvement naturel de l'énergie du Dieu trihypostatique. Quant aux distinctions, eh bien, les distinctions, nous avons une triple distinction. Le nous, d'abord. Père, Fils, Esprit, c'est une distinction. Et la périchorèse des personnes ne supprime pas cette distinction, mais la préserve de façon immuable, la propriété de chacune des hypostases. La seconde distinction qu'on peut faire, c'est selon la cause et le causé. Le Père est et demeure principe, source et racine du Fils et de l'Esprit. Donc c'est une distinction. C'est-à-dire que le Père est cause, il est seule cause, en fait, dans la Trinité. Il engendre le Fils et il fait procéder l'Esprit. Il est cause, il est principe. Il est principe. En grec, on dit principe archi. C'est la monoarchie, la monarchie. C'est ça que ça veut dire, la monarchie du Père. Les Pères utilisent ce terme de monarchie du Père. C'est pas que le Père est un monarque avec une couronne, non. Ça veut dire que le Père est le seul principe dans la Trinité. Donc, vous avez là une distinction. La troisième distinction se produit à partir des manifestations et des énergies de Dieu sur lesquelles il est rendu participable par tout ce qui existe. Ces énergies divines donc, ne sont en fait ni essence, ni hypostase, mais proviennent de l'essence, acti socias. Elles sont autour, on a vu tout à l'heure que les pères disaient qu'elles étaient autour de l'essence, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent conserver, si vous voulez, le caractère transcendant absolu de l'essence. Et donc ils disent que les énergies sont autour de l'essence, péri. Sont communes aussi aux trois hypostases, elles sont distinguées de façon unitaire. Donc là, nous avons aussi une distinction. Et parler un petit peu des unions dans la Sainte Trinité, donc nous avons la consubstantialité des personnes, l'homo ousios, ça veut dire qu'il y a la même ousia, c'est-à-dire la même essence. Donc il y a consubstantiel. Hein. Les unions prévalent, ou les préférences sur l'extinction sans les supprimer, tout en étant rien empêché par elles. L'essence est considérée comme étant le contenu des hypostases, et l'hypostase du Père comme l'union et le seul principe du Fils et de l'Esprit. Ça, on l'a déjà vu. Et un seul Dieu parce que Père, bon, c'est la phrase fameuse de Basile de Césarée et de Saint Basile qui a dit ça. Un seul Dieu parce que Père, parce qu'il est celui qui structure, en quelque sorte, la Trinité. Ça veut dire que la monarchie divine préserve le monothéisme d'une certaine façon. C'est important de comprendre ça par rapport au filioque. Enfin, on verra plus tard. Parce que dans l'orthodoxie, la monarchie du Père préserve le monothéisme. Pas seulement la monarchie du Père, mais aussi la périchorèse des hypostases. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que nous sommes monothéistes. Tout en croyant en Dieu Père, en Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. L'essence suressentielle en tant qu'union est l'essence des noms et significations suressentielles, c'est-à-dire de l'hypostase paternelle qui unit les deux autres hypostases du fait qu'elles proviennent d'elle et qu'elle leur communique son essence. Bon, ça on a vu. l'union en Dieu coïncide de toute hérédité avec la distinction, ça va le caractère unitaire de Dieu avec son caractère trinitaire. Les propriétés hypostatiques caractérisent l'hypostase. C'est important. Qu'est-ce que c'est qu'une hypostase ? Une hypostase, c'est un ensemble de caractères hypostatiques. Elles ne sont pas communes, certainement pas, puisque chaque caractère hypostatique est propre à l'hypostase correspondante. Ce sont les seuls éléments non communicables dans la Trinité. Ce n'est que par l'existence de ce qui est commun conjointement avec celle de ce qui n'est pas commun qu'est préservé le caractère unitaire en même temps que trinitaire de l'être divin. Dieu est l'unité tri-hypostatique dans sa distinction. C'est une phrase de Maxime le Confesseur. Dieu est l'unité tri-hypostatique dans sa distinction. Cette essence tri-hypostatique est absolument imparticipable par les êtres créés. Si elle était participée, elle ne serait plus tri-hypostatique, évidemment. Si nous pouvions participer à l'essence divine, nous aurions une multitude d'hypostases. Le Père n'est pas l'essence de Dieu, mais il a l'essence. Le Fils et l'Esprit ne sont pas l'essence du Père ou l'un de l'autre, mais ils reçoivent et ont de toute éternité la même essence paternelle. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la théologie de Saint-Gaudens à la Masse, c'est l'insistance, on pourrait dire, sur le caractère hypostatique. Vous voyez, il y a deux éléments au niveau de la Trinité qui sont difficiles à manipuler. Vous avez d'une part l'essence qui est commune, et d'autre part l'hypostase qui est propre. Et dans la juste théologie, c'est un équilibre entre les deux. Il faut conserver cet équilibre entre l'hypostase et l'essence. Un des reproches qui sera fait, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais un des reproches qui sera fait à la théologie occidentale, c'est de privilégier l'essence et de faire disparaître quasiment les hypostases, qui deviennent des relations, au mieux des relations. Quant à l'hypostase de l'esprit, on ne sait plus très bien où elle est. Voilà, donc. Et dans la vision orthodoxe, vous avez cette présence des personnes divines qui est tout à fait réelle, en même temps que cette essence qui est commune. La puissance commune de la Sainte Trinité, l'unité de l'énergie trinitaire. La question de l'être en soi, dit Monseigneur Amphiloque, n'est pas la seule à avoir préoccupé de tout temps la pensée humaine. Celle-ci fut toujours organiquement liée à une autre. La relation de l'être en tant qu'être, de Dieu, avec la création, avec l'homme. Et suivant les époques différentes, des réponses variées furent apportées à cette question, allant d'un refus de toute relation à l'identification ou à la confusion de Dieu avec le monde. La révélation chrétienne aussi n'est rien d'autre qu'une réponse à cette question unique et décisive pour l'existence humaine. Cette réponse chrétienne est par excellence christologique et formulée par la définition du IVe concile, c'est-à-dire Chalcédoine en 451, et du VIe concile, c'est-à-dire Constantinople III, 680-681. L'union hypostatique dans le Dieu-homme, sans confusion, sans changement, sans séparation et sans division de la nature divine avec la nature humaine, chacune étant caractérisée par l'énergie créée ou incréée qui lui convient. Vous savez que c'était aussi la discussion, le débat, savoir s'il y avait une seule énergie, le mono-énergisme, ou deux énergies. Et c'est là-dessus d'ailleurs que Maxime le Confesseur s'est battu, en expliquant qu'il y avait une énergie divine et une énergie humaine pour le Christ. Donc il y avait deux énergies. Cette réponse constitue le seul dépassement possible aussi bien de la confusion que de la séparation totale de Dieu avec le monde. Saint Grégoire Palamas, par son enseignement sur l'essence commune de la Trinité et sur l'énergie commune de la divinité, trihypostatique, ne fait rien d'autre que de prolonger la christologie dans le domaine trinitaire. Déjà, pour Saint Jean Damascène, dans la christologie, il est impossible qu'une existence puisse être tout en étant de nature incomplète. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est-à-dire que toute existence suppose une énergie. L'énergie, selon la nature, n'existe pas à partir de ce qui lui est extérieur, et il est clair qu'il est impossible que la nature puisse ne pas être ni être connue sans l'énergie qui lui est propre par la nature. C'est-à-dire que toute nature existante a une énergie, a une opération, a une manifestation. Et Saint Père affirme clairement que toute nature ne peut ni être connue sans son énergie essentielle. Ce qui veut dire qu'une nature sans énergie serait inexistante. Ce qui revient à dire que si l'on se coupe Dieu de son énergie, on le rend inexistant. Parce que c'est l'énergie qui manifeste l'essence, qui manifeste la nature. C'est grave cette question-là, parce que c'est une question qui est au cœur, au fond de la pensée théologique officielle, parce qu'il faut là aussi, il faudrait nuancer, de l'Occident et de l'Orient. L'essence étant inconnaissable, incompréhensible et impartipable, le seul moyen de la connaître, c'est sa manifestation ad extra. On ne connaît pas l'essence, on ne peut pas la connaître. La seule façon de la connaître, c'est par sa manifestation. Pour Saint Jean Damascène, l'énergie est le mouvement actif et essentiel de la nature. C'est un mouvement de la nature actif et essentiel, donc qui concerne aussi son essence et qui produit une opération. Les êtres n'existent que grâce à l'énergie. L'énergie créatrice de Dieu est essence des êtres créés et vie des vivants, sagesse de ceux qui cherchent la sagesse, et simplement l'être de tout ce qui participe à l'être et à l'être bien. Ça, c'est un clin d'œil à Saint Maxime le Confesseur. Maxime le Confesseur distinguait plusieurs phases dans la vie spirituelle. L'être bien, c'est celui qui rétablit en quelque sorte sa relation avec Dieu et avec la grâce. Et l'être toujours bien, c'est celui qui est arrivé, donc qui a fait ce chemin de la déification et qui est arrivé au repos en Dieu, en quelque sorte. Bon, l'énergie est le mouvement essentiel et actif de la nature. Les êtres n'existent que grâce à l'énergie. L'énergie créée de Dieu est essence d'être créé, vie des vivants, sagesse de ceux qui cherchent la sagesse, et simplement l'être de tout ce qui participe à l'être et à l'être bien et puissance qui produit la beauté. Donc le mystère de l'énergie est lié à celui de l'essence et celui d'un seul et même mystère. Il n'existe pas d'essence dépourvue d'énergie. C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence sans manifestation. Ni d'énergie dépourvue d'essence, bien sûr. S'il y a une énergie, ça veut dire qu'il y a une essence. L'essence à l'essence et l'énergie essentielle sont ensemble l'être et la manifestation de l'être de la divinité trihypostatique, c'est-à-dire la divinité personnelle. L'énergie est l'œuvre et le mouvement de l'essence trinitaire. La nature est ce qui est mu par l'énergie. Donc, la nature physis est ce qui est mu par l'énergie. L'hypostase est celui qui meut, et le mouvement est l'énergie. Il n'y a qu'un seul mouvement de la volonté divine qui jaillit de la causalité du Père, donc c'est le Père qui est cause de toute éternité, progressant à travers le Fils et qui se manifeste dans l'Esprit Saint. Du Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. La création qui est l'œuvre de la seule énergie révèle l'unique essence incompréhensible et dans chaque énergie, la totalité de l'essence est présente. Je vais terminer peut-être avec les distinctions de la Sainte Trinité, parce que sinon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais vous voyez que ce sont quand même des questions importantes, puisqu'elles concernent Dieu. Il n'y a rien de plus important. Donc, distinction dans la Sainte Trinité, les propriétés hypostatiques et naturelles des personnes divines, les caractères hypostatiques, donc chaque hypostase a des caractères hypostatiques, nombreux, mais aucun d'entre eux ne constitue une hypostase, sinon il y aurait autant d'hypostates que de caractères hypostatiques. Ces caractères sont enhypostasiés, c'est le langage qu'ils emploient, sont dans l'hypostase, comme étant autour de l'hypostase. Pour Saint Basile, l'hypostase est le concours des propriétés particulière à chaque personne. C'est-à-dire que chaque propriété particulière concourt à, dans la personne, concourt à faire une hypostase. C'est ça l'hypostase. Les propriétés distinctives des personnes n'ont pas la nature comme principe, mais l'hypostase. Le Père produit, selon l'hypostase, à partir de sa nature, le Fils et l'Esprit. Et cela constitue le trait caractéristique de son hypostase. Ça veut dire que le Père engendre l'Esprit par son hypostase, à partir de sa nature. La Trinité est l'unique Trinité très monarchique, le Père est la seule cause dans le cas de la Trinité, on l'a déjà vu, et le seul principe au-delà de tout principe. Le Père transmet la totalité et la même essence et énergie au Fils et à l'Esprit. Il préserve en tant que principe personnel l'identité et l'unité de la divinité, et par là conjointement aussi l'identité des hypostases dans leur distinction. Les propriétés hypostatiques du Père sont le fait d'être inengendré. Le Père est inengendré. Il est non causé. Il est seule cause dans la Trinité. Il est racine et source de la divinité contemplée dans le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle parfois d'un Dieu source. C'est référence au Père. Unique cause, toute première des choses créées. Donc la monarchie du Père qui se rapporte à l'existence éternelle des hypostases divines, jamais le Père fut sans le Fils et sans l'Esprit. Pour cette raison seulement, il est grand, il est plus grand que le Fils et que l'Esprit. Divinité, le terme qu'ils emploient, c'est divinité qui engendre Dieu. Il est le Dieu qui engendre Dieu, effectivement. Le Père est Dieu qui engendre Dieu. C'est pour ça que le Fils dit que Dieu est plus grand, le Père est plus grand que moi. En tant que cause, uniquement. Non par nature. Monarchie dans le temps, donc les propriétés hypostatiques du Fils, l'engendrement du Fils et l'œuvre de la vie du Père sont l'hypostase du Père, et non pas de sa volonté. La création est l'œuvre de la volonté trinitaire commune. L'engendrement, comme le fait d'être engendré, sont co-éternels par nature. Le mode de la création est autre que celui de l'engendrement. Le Fils est causé, il fait connaître et envoie l'Esprit, et conjointement avec lui, il est cause et principe de tout ce qui advient à l'être. Il est sans commencement et intemporel. Le seul à être uni selon l'hypostase avec la nature humaine. Tout en demeurant ce qu'il était, Dieu véritable, il a uni sans confusion et sans changement les deux natures, volonté et énergie, tout en demeurant un seul Fils, dans une seule hypostase, même après l'incarnation, et les propriétés hypostatiques du Fils, ce sont les propriétés les plus énigmatiques. Parce que il se vide dans toute l'économie. L'esprit n'a pas de nom, en fait. On dit Dieu est esprit, c'est ce que dit saint Jean. Theos pneumaesti. L'esprit n'a pas de nom. Il se vide, il y a la kénose de l'esprit. Par la kénose de l'amour, sont en demeurant une personne, il est une hypostase. Mais cette hypostase est difficilement compréhensible, est incompréhensible et n'a pas de nom. La procession est la propriété personnelle de l'esprit. Caractère hypostatique, là. Il est une hypostase, caractère hypostatique, l'esprit procède du Père. Sans principe, puisqu'intemporel, mais non sans principe, dans la mesure où il a le Père comme cause. Tout ce que nous savons de la procession, c'est qu'elle diffère de l'engendrement. Le trait caractéristique de l'existence selon l'hypostase, c'est le fait d'être connu après le Fils et avec lui de tenir son existence du Père. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est largement suffisant. On voit à quel point, si vous voulez, la théologie des pères, la théologie patristique, est une théologie qui est globale, dans la mesure où elle englobe la création, elle englobe l'homme, et dans la mesure aussi où elle est sans séparation. C'est-à-dire que nous n'avons pas des étages dans cette théologie. Nous n'avons pas un Dieu tout-puissant qui serait au-delà de tout, qui serait une essence close sur elle-même, et des êtres qui seraient bénéficiaires d'une grâce créée. Et tous les théologiens, hein, la plupart des théologies orthodoxes ont insisté sur le danger, sur le grave danger qu'il y avait à vider le monde de Dieu. Parce que Dieu n'est plus présent en tant que tel dans le monde, et cela peut conduire à des formes d'athéisme, cela peut conduire à des formes de... Aussi, on a d'une volonté de remplacer ce vide. On le remplace par quoi? On le remplace par la raison humaine? On le remplace par des personnalités exceptionnelles que l'on met en avant avec des grands concours médiatiques? On remplace par toutes sortes de choses? Et surtout, pour ce qui est du Christ, on sépare de facto la divinité de l'humanité du Christ. Et l'on insiste sur l'humanité et sur l'humanité souffrante. Et l'on arrive à un Dieu qui finalement est un Dieu souffrant. Ça, c'est ce que dira d'ailleurs l'idiot dans Dostoïevski. Enfin, il dit à un moment, je ne veux pas citer ces paroles parce qu'elles sont extrêmement violentes, mais l'esprit de ce qu'il dit, c'est qu'il y a quelque chose de pire que de ne pas croire en Dieu, c'est de croire dans un Dieu mort. Merci.